confrontation. Que si le mirage, c'est l'istimatem chez Kabashtem Arsot Shivarim. Vous êtes des brigands, pourquoi? Parce que vous avez pris par conquête la terre des nations. Et on leur répond par verset la Bible, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est lui qui sait à qui il le donne, à qui il le donne. Vous vous rappelez? Alors si déjà ils sont prêts à prendre l'argumentation de la Bible, pourquoi on ne leur cite pas les versets de la promesse que cette terre appartient au descendant des patriarches et à eux, à personne d'autre? C'est vrai? Bon. Même si les Arabes disent, quand le verset pas le mot là, tu même si les Arabes disent qu'ils sont aussi des descendants de patriarches, alors il est clair qu'ils sont pas, ils sont descendants d'Abraham, mais pas, ils sont pas descendants d'Isaac et de Jacob. Et dans la Bible, c'est très clair, ce pays appartient à la descendance d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est clair? Bon, avec tout ce qu'il y a autour de ce problème. Mais c'est parce qu'en fait, ils reconnaissent que ce pays était Israël. Mais quelle est leur argumentation? Vous n'y avez pas le droit parce que vous venez par la conquête. Il faut attendre que Dieu vous le donne sur un plateau. Vous vous rappelez? Que votre récit, on verra après ce jour. Est-ce que, et vous comprenez que l'argument des juifs religieux anti-sionistes, c'est l'argument des anti-juifs. Vous n'avez pas le droit à ce pays parce que c'est par la conquête, et attendez que votre Messie vous le donne. Allez, c'est clair. Alors, regardez le verset 28, et je vous avais signalé quelque chose de, qu'il faut expliquer. Et alors, c'est là que Israël répondra, et bien voilà, nous avons le récit. Comment Dieu donne un pays à qui il le donne? Et premièrement, à l'origine, au premier homme. Alors, suivez avec moi. Et Dieu les bénit, le premier homme et la première femme, et il leur dit, Elohim, Dieu, Pérou, fructifiez, multipliez-vous, ou milou et tarez, vechipchoua. Emplissez la terre et conquérez-la. Vous vous rappelez? Bon. Alors, déjà, nous avons le mot conquête. Donc, l'argument tombe. Quand Dieu promet la terre au patriarche, il faudra donc tenir compte de l'éventualité d'avoir à la prendre par la conquête si on est empêché. De la même manière, quand Dieu a donné la terre au premier homme, c'est par la conquête. C'est clair? Bon, en tout cas, pour l'argument, au niveau théologique humain. Mais ce que j'avais signalé, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, c'est l'ordre qui est absolument inhabituel. Minhu et Daaret, emplissez la terre, l'écriture, et conquérez-la. L'ordre n'est pas normal. Il faut d'abord conquérir avant d'emplir la terre. C'est clair? Alors, il n'y a pas de doute que c'est exactement dans cet ordre-là que ce qui a été fait, ce risque de conquête, et au temps de Josué, vous verrez dans le livre de Josué, Israël avait le commandement, la consigne, d'entrer dans le pays pacifiquement et de ne faire la guerre que s'ils étaient avec. De la même manière, toutes les guerres d'Israël se sont faites de façon anormale. Si je vais dans ce cercle-là, Eretz Israël, une guerre de conquête, ça voudrait dire qu'on vient de l'extérieur pour conquérir le pays. Or, toutes les guerres d'Israël se sont faites du dedans du pays à la périphérie. C'est-à-dire, les Juifs sont entrés dans le pays, ils sont entrés comme ils sont entrés, au nez à la barbe des Britanniques, mais une fois le jour de l'indépendance, ils ont été attaqués de l'extérieur. Et toutes les guerres ont été faites pour élargir les frontières. Et c'est pas fini. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour arriver aux frontières. Et c'est pas encore. C'est-à-dire nous devons bien que ce chelo yalo kechoma qui se réalise de notre temps, puisque c'est kechoma que le mouvement sioniste est arrivé, pas pour faire la guerre, mais prêt à la faire si c'est nécessaire. Est-ce que c'est clair? Bon, eh bien, ça a été dans l'ordre, effectivement, de ce que dit Rashi à propos. Vous avez bien compris. Alors, ça c'est le premier. Et la question qu'on va se poser à nous, c'est qu'est-ce qui nous fait comprendre que maintenant Israël, le peuple juif avait le droit? C'est clair? Vous voyez d'abord comment le signe coïncide dans cette politique. Ce qui différencie le mouvement sioniste de tout autre mouvement messianique possible, et qui montre bien que nous sommes dans les temps, c'est que dans tous les autres mouvements messianiques possibles pendant 2000 ans, il n'y a jamais eu cette possibilité de tenir en échec le monde entier pour la reconquête de l'Israël. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors,
comme a dit Bill, ça a été démontré à posteriori.
Non, pour nous maintenant, notre génération. Okay. Mais ce que je cherche, c'est le diagnostic qui fait que on a pris conscience que le temps était venu où c'est possible, où on a le droit. C'est la première fois, avec, encore une fois, le mouvement sioniste politique. Quelle est la première alia ? Bon, oui. Que des Juifs ont décidé de venir en Eretz Israël, pas pour habiter dans des ghettos chez les Turcs ou chez les Anglais, okay, mais de venir pour vivre comme Hébreux et plus comme Juifs de l'exil et prêts à se défendre si c'est nécessaire. Est-ce que c'est clair ? C'est la première fois que c'est clair. Maintenant, nous voyons, 50 ans après, qu'ils avaient raison. On a mis en échec le monde entier. Et cette possibilité, on ne l'a jamais eue pendant 2000 ans. Est-ce que c'est compris ? Et rappelez-vous, nous sommes maintenant à la veille de la guerre d'indépendance, en fait, de Yom HaAtzmaut. Et rappelez-vous ce qui s'est produit. Le jour où les Anglais ont fini par rentrer chez eux, il reste encore des colonies à ce moment-là. Vous avez vu ? Oui ? Quoi ? Gibraltar. Ah, il faut qu'il le rende.
En Asie,
ils ont quelque chose. Eh bien, Gibraltar, ça, il le doit au Sfaradim. Il le rendra aux Espagnols. Mais ce jour-là, eh bien, il y a 7 armées arabes qui ont attaqué le Hijou. Okay. Et pas par hasard, 7. Les 7 peuples, vous vous rappelez de Rachid, okay. Donc, la Ligue arabe à l'époque avait cette date. Maintenant, ils en ont 25 ou 26. Moins l'Égypte, chaos. Il y a eu hier fraternisation entre les soldats égyptiens et israéliens. Je ne sais pas si vous avez vu. On verra ce qui va en sortir, mais dans tous les cas. Bon. Alors donc, voilà ce que Rabbi Zera répond à Rabbi Yehuda. C'est clair ? Ça, c'est qu'on ne revient pas en force. Donc, c'est la situation du premier cycle. Bon, il nous en manque 6 et le 7e encore, il est 7h. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire Arbi, vous dîner, pour pouvoir libérer la cuisinière, et on prendra une heure après dîner. Ça va ou ça va pas ? Ok ? Donc. Alors, on se revoit dans la cuisine. Ils sont impliqués dans le verset Ishvar qui est clair, c'est clair ? Oui. Et c'est que je vais donc vous faire le raisonnement. Le verset dit, je vous adjure de ne pas éveiller l'amour jusqu'à ce qu'elle ne le veuille. Par conséquent, il y a une sorte de réprimation, je ne sais pas comment dire, du désir de Rabbi Zera dans ce Maasé, de mettre fin à ce temps d'exil et de revenir. Mais il faut prendre garde que tant que le temps n'est pas arrivé, ça risque d'être catastrophique. Disons, si vous voulez, pour formuler de façon très brève, très simple, un retour anticipé risque de provoquer un faux messianisme et, par exemple, du point de vue historique, ce qui s'est passé au temps de Charlotte et suite. C'est clair. Bon. Je vais prendre d'ailleurs, si vous voulez, c'est pas le seul événement. Il y a eu 7 fois un essai, dont un par la... Ça va bien dans la lune, là-bas ?
Non, mais il y a aussi une petite lune.
Ah bon ? De la lune. Et en particulier, il y a une. Bon, je vous ai parlé une fois, une tentative de la Alia des élèves de Rachid, et il y a eu, parallèlement, il y a 200 ans à peu près, un peu plus, les premiers chassidim, les premiers disciples du Baal Shem Tov, mais en même temps, les disciples de Haïm Ben Azhar du Maroc, qui sont montés en même temps pour essayer de déclencher la Alia. Mais rappelez-moi si je vous dis tout à l'heure, vous parlez quand même un peu plus en détail de ce qui s'est passé au temps de Shabbatéisme. Est-ce que vous avez vu déjà une allusion au temps de Shabbatéisme en cours d'histoire ?
Non.
Jamais ? Bon. En tout cas, malgré tout, demander à Madame Meyer, dans le développement de son cours, des rapports entre le peuple juif et l'Israël, de vous faire un cours sur le chabadéisme. Bon. Donc je disais, le fait de déclencher un retour anticipé risque de mener à une catastrophe, disons, grosso modo, d'un faux messianisme, et de mettre en péril le sens de la finalité, non plus que le sens, de l'histoire d'Israël. Il y a donc un scrupule religieux qu'il faut bien comprendre clairement, qui continue à fonctionner aujourd'hui à vide, bien entendu, sans objet, mais il faut d'abord bien comprendre quelle est sa base et quelle est son origine. Le fait que, même si on ne comprend pas quelle est la finalité de l'exil, elle a une finalité, et donc risquer, et avec tous les risques de persécution que ça comporte d'ailleurs, risquer d'y mettre fin de façon anticipée risque d'être catastrophique. Mais vous comprenez bien le principe du verset. Halte des phrases, jusqu'à ce que ce soit le temps. Mais le principe, c'est que l'attitude normale, c'est de vouloir revenir, et en est empêché avec le temps. C'est pas que l'attitude normale, c'est de ne pas revenir, et c'est que le temps qui nous oblige. Est-ce que vous avez bien compris le processus naturel? Et c'est bien clair. Et ça a été comme ça dans toute l'histoire traditionnelle des Juifs. C'est depuis l'émancipation que ça s'est inversé, avec le mythe de la double appartenance de citoyenneté. C'est que pendant 2000 ans, un Juif normal, le mouvement normal, c'est de ne pas supporter d'être en exil, de vouloir revenir, mais d'être empêché à cause du temps. Et non pas l'inverse. Que le mouvement normal serait de rester en exil et qu'on est obligé. Vous avez compris. Il y a là une inversion d'identité qui est extrêmement grave. Vous comprenez-vous? Bon, maintenant je pense que vous êtes suffisamment familier avec cette remise à l'endroit des éléments. Bien. Alors donc voilà comment Rabbi Zera va répondre à Rabbi Yehuda. Eh bien, le verset de Shira Shirim, c'est pour nous interdire de revenir en force avant le temps, mais moi je ne suis pas dans ce cas-là. Je reviens à l'échelle individuelle, et ça j'ai droit. C'est clair? Alors Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Rabbi Yehuda, je suis parti à Harina, Yet, vous êtes à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, à la fin de la 6e. Vers Rabbi Yehuda, à partir du moment où Rabbi Zera a dit ça, ça veut dire Shelo Ya'alu Israël Bechoma. Alors Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va répondre? Ishvarti Yaharinakti. Il y a un autre verset, Ishvar. Il n'y en a pas un seul. D'ailleurs, il y en a trois. Il y en a trois doublés. Il y en a trois qui sont six. C'est-à-dire, chaque fois que Rabbi Zera va dire un argument, et vous voyez là, la manière systématique pédagogique de l'enseignement, okay, tout est su a priori à l'avance. Mais c'est procédé pédagogique d'exposition. Okay. Chaque fois que Rabbi Zera va donner un argument contre Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda va sortir l'argument suivant. C'est clair? Et il y en a donc six. C'est clair? Alors, vers Rabbi Yehuda, je vais partir à Rabbi Yehuda. Oui. Mais tu sais très bien, Rabbi Zera, qu'il y a encore un autre verset de Yishvah. Mais Rabbi Zera, alors Rabbi Zera, comment va répondre à la réponse de Rabbi Yehuda? Vous suivez vos raisonnements? Ha'houme be'ele, le kede Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Il répondra selon l'ordre de l'enseignement de Rabbi Yosef, fils de Rabbi Hanina. De'ama, Rabbi Yosef, fils de Rabbi Hanina, avait dit Shalosh shevurot alalu halama. C'est trois serments, c'est-à-dire les trois versets de base, pourquoi? C'est-à-dire, on va prendre maintenant l'enseignement général des trois d'emblée. Okay. Réponse. Ahad, Shelo Yaralu, Israël de Choma. Le premier, comme on l'a vu, qu'Israël ne revienne pas en force. Super. Le deuxième. Be'ahad, Sheishbiya, Kadosh Baruch Hu et Israël, que Dieu a fait jurer Israël, Shelo Imredu Be'umot Aola, qui ne se révolte pas contre les nations. Qui ne se révolte pas contre les nations. En quoi? Pourquoi? Par rapport à ce problème. C'est-à-dire pour décider, eux, de revenir en Israël sans l'autorisation des nations. Voilà le deuxième signe. C'est clair? Bon, alors là, vous êtes déjà familier avec toute cette paracha. C'est déjà la sortie d'Égypte, le feu vert donné par le pharaon. C'est au temps du retour du deuxième exil, la déclaration de Cyrus. Et c'est de notre temps, la déclaration de Balfour. C'est clair. Vous voyez que les choses vont ensemble. Et vous remarquez tout de suite que. Vous remarquez tout de suite que ça va ensemble. C'est-à-dire, vous allez voir d'ailleurs le troisième signe, je ne vous en parle maintenant pas compliqué, mais vous allez voir surtout le troisième signe va aussi faire un faisceau avec les deux premiers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le temps est venu de revenir en mouvement national, eh bien c'est le temps où finalement les nations devaient. Est-ce que c'est clair? Bon. Et vous pouvez réfléchir à cela. Bon, je ne reviens pas sur les détails de l'enseignement divin, on l'a suffisamment étudié à propos de tout ça. Il y a un contrat de travail entre Israël et l'humanité tout entière. Et par conséquent, s'il faut mettre fin au contrat, il faut l'accord des deux parties. C'est clair? Bon. Mais c'est ceci, c'est que je veux bien vous mettre ça en évidence, parce que j'en ai parlé au début de l'année à propos d'une de vos questions, de toute façon. C'est que, il me semble que, je vous ai cité Monfleg à ce propos. Monfleg avait dit une fois une chose extrêmement impressionnante. Il dit, Dieu n'a pas promis leur terre aux goyim, et il leur a donné. À nous, il a promis, c'est d'Afka à nous qu'il n'a pas donné. Donc il y a un mystère. Vous comprenez? C'est une chose inouïe. Dans toute l'histoire de l'humanité, le seul peuple qui a des témoignages que Dieu lui a promis sa terre, c'est Israël et l'Israël. D'Afka, là, il y a un problème. Alors que les autres, c'est Hefker. Dieu n'a jamais promis rien à personne, et ils sont installés chez eux comme si c'était chez eux. Et là où il y a des. Aïdou, c'est plus que témoignage. Là où il y a un problème que il faut que Dieu promette, c'est là que ça marche pas. Vous avez remarqué? Donc, ce qu'il y a un problème. Même ce que je dis, c'est ceci. Il faut bien réfléchir. Pendant 2000 ans, depuis le temps de l'Empire romain, et à partir du moment de l'éclatement de l'Empire romain, et où il y a eu, vous avez appris ça, je suppose, en histoire à l'école, le principe des nationalités, vous connaissez cela. Okay? Toutes les nations avaient leur identité nationale, leur indépendance nationale, sauf Israël. C'est clair? Bon. Et pendant tout ce temps-là, il n'y a jamais eu possibilité dans toute l'histoire de l'humanité d'installer une instance supranationale. Je ne parle pas d'international, mais supranationale. C'est d'Afka, au moment où Israël réclame son identité nationale, qu'apparaît une instance internationale pour la lutte. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, jusqu'à la Société des Nations, il n'y a pas d'instance supranationale. À partir du moment où le mouvement sioniste apparaît, alors l'institution supranationale apparaît. Et pourquoi faire? Elle a fait que ça. Qu'est-ce qu'elle a fait dans la Société des Nations? Enregistrer la déclaration. Vous avez compris le problème? C'est clair? Non? Ça va pas? Comment on appelle la Société des Nations hébreu? Vous ne comprenez pas avec le mot d'Amé Ochadot, ça c'est l'ONU. Comment on appelle la Société des Nations? Vous savez pas, ouais, ben je vous la. Ça s'appelle Hever Leumi. Hever Leumi. La Société des Nations d'après la guerre de 14. SDN, ça vous dit quelque chose? Genève, là. Et alors, le. Non, c'est toi aussi. Et comment on dit l'ONU en hébreu, ça se dit? Oum, c'est quoi? Oumot Meuchadot. Mais c'est juste le début de Oumot Meuchadot. Vous avez remarqué comment s'appelle la station où la paix a été signée hier avec l'Égypte? Et c'est un nom arabe. N'est pas suivi dans le Oum Hashiva. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous avez remarqué? En arabe, ça veut dire Ouma en arabe, d'ailleurs, ça veut dire comme en hébreu une nation. Je ne vais pas vous dire exactement ce que ça veut dire, mais enfin, c'est très frappant que ça s'appelle comme ça. Hashiva. Il y a ici les Oumot Aolam qui sont
là. C'est le Hashiv.
Le Hashiv, de compter, faire des comptes. Bon, c'est des petits clins d'œil de coïncidence. Et alors, oui, c'est ça que je voulais mettre en évidence. C'est-à-dire que pendant tout le temps où c'est pas question pour Israël de réclamer son identité nationale, il n'y a pas d'instance supranationale. Et voilà que ça coïncide. Israël décide de monter en muraille, c'est-à-dire de monter en nation, alors apparaît la Société des Nations. Et je vous ai dit l'autre jour à quel point ça a été pas facile d'obtenir du peuple juif et de ses autorités de faire que les sionistes obtiennent de l'Angleterre la déclaration Balfour, qui a été enregistrée finalement en 22-23 à San Remo, en Italie. Vous êtes au courant de ça, que c'est San Remo? Bon, c'est quand la SDN a enregistré la déclaration. Et alors, ça y est pour le deuxième signe. Le troisième signe, et donc et le troisième verset, quel est le troisième serment? Ve'achat, le troisième, Shehishviyah Akadosh Baruch Hu et Aron de Kochavim, que Dieu a fait jurer les idolâtres, Shelo Ishtahbedu Ba'en Bel Israël Yotermidai, qu'il ne persécute pas trop Israël. Et vous comprenez tout de suite comment les trois signes vont ensemble. Quand c'est arrivé qu'Israël a décidé de revenir en force, que les nations ont dû se réunir pour donner le feu vert, quand la persécution s'est exagérée. Vous voyez que ça avance. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Pour revenir à cette ordonnance, il y a ici deux problèmes, on les a déjà étudiés. Israël va aller en exil. Alors qu'est-ce que Dieu fait jurer au Kohen? Pas qu'il ne persécute pas Israël, ça nous savons que c'est inévitable. On a déjà appris avant. Hein. Vous comprenez? Mais qui ne persécute pas trop. Regardez l'humour de la demande. Chez l'Oishtarbedou de l'Israël, Yotermidai. Pas trop. N'exagérez pas. Eh bien, ils ont exagéré. Alors, c'est arrivé ensemble. C'est fait? Et je ne vous parle pas du nazisme, là, mais des pogroms d'Europe centrale et d'Europe orientale, d'où est sorti le sionisme politique. C'est clair? Et encore une fois, non pas tellement comme solution à l'antisémitisme, mais comme fin de l'exil, qu'il n'y a pas de solution à l'antisémitisme en exil, et qu'il faut décrocher. Est-ce que c'est clair?
Je n'ai pas compris que l'Israël pas trop, j'avais compris que...
Il ne persécute pas, mais ça on a déjà étudié. Je vous ai dit, on a étudié à propos de la Pessah, on a étudié cette semaine encore, à partir du moment où une minorité nationale s'entête dans sa différence d'identité à l'intérieur d'une société donnée, à la longue, ça déclenche un phénomène de rejet. Donc, on sait à l'avance que partir en exil, ça implique la persécution. Xénophobie, antisémitisme, pogrom, verroulé. Mais, alors Dieu dit, pas trop. Alors, comme les goyim ont exagéré, Kamarno, c'est fini. Vous avez compris? Et encore une fois, le diagnostic que c'est exagéré, c'est pas le nazisme. Ça, le nazisme, c'est la catastrophe. C'est les pogroms de Russie, c'est Kishinev, c'est Pletura, c'est... Vous avez appris ces choses-là, okay. C'est là que ça se déclenche. Et c'est là que...
Ils doivent rester, mais dans la mesure qu'ils peuvent rester en galoute, mais dans la mesure où ils ne persécutent pas trop...
Non, Israël. C'est l'inverse. Dans la mesure où les goyims persécutent trop Israël, c'est fini pour l'histoire de la civilisation en question. Gamarou, c'est la fin du temps d'exil, il n'y a plus de sursis, on décroche, sorti d'Égypte, où est l'Égypte? Où est l'Égypte d'où on est sorti? Fini, ça n'existe plus. C'est la même chose quand on parlera de notre civilisation, on en parlera de la même manière. Ils ont exagéré, les Juifs sont sortis, et où est cette civilisation? Dans les musées, en archéologie, dans les cimetières, dans la préhistoire. C'est déjà comme ça, mais les goyim ne le savent pas.
Dans le cas de la Shoah, on a su qu'ils ont exagéré qu'après tout, c'est-à-dire que...
Non, je te dis, je réponds la Shoah, c'est autre chose. La Shoah, c'est la catastrophe qui a atteint les Juifs, parce que les Juifs n'ont pas vu 100 ans avant que l'exagération ait commencé, qu'il fallait décrocher. Ça y est, vous raisonnez en clair.
Oui, je pense qu'il y a des différences de long. C'est lorsqu'on commence à trop exagérer qu'il faut décrocher.
Lorsque les goyim exagèrent la persécution, les Juifs ont le droit de décrocher. Et s'ils ne décrochent pas, ils se font prendre au piège. Et on va voir le piège. Après, il va être dit en clair. Et comprenez bien, de cette persécution-là dont il s'agit ici, c'est pas ce qui est arrivé dans la Shoah. La Shoah, c'est la décision de la solution finale. Vous n'avez pas voulu partir, vous allez partir. Autrement. Okay. Mais l'exagération de la persécution, c'est ce qui a déclenché le sionisme politique. C'est clair ? Et qu'est-ce que le sionisme politique ? Ils exagèrent, on va disparaître, on rentre chez nous.
C'est dans ce sens-là que...
Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne comprends pas.
Je ne vois pas où est-ce qu'on place ce tour.
Ce trop.
Enfin, je vois, j'ai compris. C'est donc pour ça que le judaïsme séparate...
que le sionisme politique...
a raté le coche également.
Au moment de l'acquisition d'Espagne.
Il aurait dû faire comme les sionistes de Russie.
Sans problème. Et d'ailleurs, leurs rabbins ont fait. Judas Lévi, Maïmonide, les grands. Et ils ont dit, faites attention, si vous rentrez pas en Eretz Israël, vous le payerez à la fin des temps. Nous avons les textes. Et c'est le cas. Aujourd'hui, les Sfaradim sont le deuxième Israël en Israël. C'est pas pour rien. Ils payent les fautes de Sfarad. Vous comprenez mes choses ? Ça se paye, tout cela.
D'un autre côté, il paraît que la création de l'État d'Israël maintenant, dans le temps, correspond avec certains comptes que font les peuples.
C'est pas il paraît. Mais il y avait une date aussi pour la sortie d'Espagne. Mais on l'a laissé passer. Maintenant, nous sommes à la date finale, comme je vous ai dit. Okay. Mais d'ailleurs, je vais vous la donner à propos du Yom HaTzmaout, je vous la donner en fait, et je vous l'ai cité dans le cours. Okay. Oui ?
Non,
je ne l'ai pas cité. Vous avez une mémoire d'ange.
Les cours de Yom
HaTzmaout,
c'est
non. Pendant l'année. Voilà. Je vous ai dit, voilà, je vous cite un texte, que la date de la proclamation d'État d'Israël est connue des capables de toujours. Je vous l'ai cité.
Ah,
en tant que quoi ? Pas en tant qu'une date possible. La date possible, nous avons toute une série de dates possibles pendant 2000 ans, dont la sortie d'Espagne. Okay ? Mais la date ultime, dernière, finale, que vous vouliez ou vous vouliez pas. Et celle-là, c'est 48. Ça y est, c'est clair ?
C'est
qui ?
Les
juifs, les juifs. Je peux supporter, je peux supporter. Je peux pas supporter, je peux pas supporter. C'est les juifs qui ont décidé. C'est-à-dire, tant que c'était des persécutions normales pour un goy normal, bon, ça va. On sait que c'est notre histoire. À partir du moment où c'est devenu cette barbarie qui a commencé en Russie, alors là, les juifs ont dit, zut, c'est fini. Comment ? Allez vous faire l'autre. Mais ça veut dire que c'est la condamnation de la civilisation actuelle. Je pense que c'est clair. À partir du moment où Israël quitte une civilisation dans ces conditions, c'est l'Égypte, la même chose. Il ne restera plus que la tour Eiffel, les pyramides, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Quand vos petits-enfants vous raconteront, quand ils vous rencontreront au Gan Eden. Mais c'est déjà le cas. Une civilisation est en train de se suicider. C'est déjà vraiment une valeur. Et n'essayez pas de la sauver, il n'y a pas de chance. Compris ? Qu'est-ce que voulaient les Hébreux qui ont pas suivi Moïse ? Laissez-nous sauver la civilisation des pyramides. Vous voyez ce que font les Lubavitch en Amérique ? Ils veulent sauver l'Amérique. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, d'un côté, ils sont vraiment insérés dans l'histoire du peuple juif à 100%. Et c'est des juifs srofim, comme on dit en français. En hébreu, on dit brûlé, en français, ça veut dire brûlant. Quand on dit quelqu'un qui est sarouk, enflammé, pour la guerre. Oui, ardent. Mais vous voyez que ça finit dans les fours, les flammes. Et ils ont une flamme pour l'Amérique. Alors, retour de flamme. Mais d'un autre côté, ils sont insérés à 100% dans l'histoire américaine. Carter, c'est leur président. Vous comprenez ? Et à quoi on est occupé ? Simplement, parce que c'est des gens que d'autres, okay. À sauver l'Amérique. Voilà la situation où on est. On va sauver l'Amérique. C'est ce que l'on dit en anglais, ou l'Amérique. Ah, c'est assez de me changer de sujet chaque fois. C'est pas toi qui vas sauver les Lubavitch. Après, ils sauveront tous eux. L'honneur des Lubavitch. Je suis en train de vous expliquer une chose, ne va pas à côté. Essayez de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Cette espèce de ferveur qu'il y a, et elle est réelle, de la cour du Rebbe des Chassidim à Brooklyn pour l'Amérique. Bon, mais ça a été pour la Sainte-Russie, ça a été pour l'Allemagne, chez les orthodoxes allemands de Schimpson Raphaël Kirsch, et on ne dit pas Hirsch, c'est pas Kirsch. Et ça a été en France la même chose. Vous avez jamais vu les rabbins marocains pleurer pour le sultan, hein? C'est la même chose. Sultan, ça te rappelle des souvenirs, hein? Alors on va sauver le Maroc. Alors ça y est, vous comprenez cette histoire? Et, oui, quand c'est sauvable, quand c'est des gens normaux, je n'ose pas dire civilisés, chacun a sa culture. Les critères de civilisation, c'est des critères différents selon les pays. Mais quand ça devient des barbares et des sauvages, eh bien c'est fini. Je pense que c'est clair. Vous voyez ? On peut avancer. Alors voilà donc les trois signes ensemble. Premièrement, ne pas revenir au mouvement national. Deuxièmement, ne pas se révolter, c'est-à-dire contre la décision des Goïms. Troisièmement, que les Goïms ont promis de ne pas trop persécuter Israël. Or, ces trois choses ont joué ensemble. Je pense que c'est compris. Alors, je voudrais quand même mettre en évidence qu'ils ont une objection possible pour l'expliquer. Mais on pourrait objecter, comme on voit bien, que les Goïms sont contre. Et que par conséquent, le sionisme va contre-courant de l'opinion universelle. C'est-à-dire, si on fait un galop à l'ONU, eh bien, l'ONU est pour les Palestiniens et pas pour les Israéliens. Vous vous rappelez quand Arafat est arrivé à l'ONU, le vote qui a condamné Israël comme pays raciste, il y avait comme par hasard, je ne sais pas si je vous l'ai cité, 70 nations contre Israël. Les 70 nations, elles sont là. Ouais. Enfin, ça ne change pas. Ça, c'est l'humour de l'ONU. C'est l'humour. Alors, comment on répondrait à cette objection que j'entends souvent à Strasbourg, vous savez?
Qu'à un moment donné, elle a voté pour Israël, et qu'Israël a fait le choix.
Non, c'est le début. Que le feu vert a été donné. Ensuite, ils se sont ravisés. Mais c'était comme ça chez le pharaon. 3 jours après, il a changé d'avis. Mais entre temps, c'est trop tard. Il a donné le feu vert. Il a donné le divorce. Après, divorce, c'est divorce. On se remet pas ensemble. Vous comprenez le problème? Après, regret. Ah, je t'aimais bien. Mais c'est trop tard. Vous voyez le problème? Vous voyez, Béchalar paro et Aram. 3 jours après, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé partir Israël. Qu'est-ce que vont dire les Palestiniens? Et là, c'est trop tard. Vous avez compris le problème? Bien. Alors, on peut avancer, il nous reste encore 3 signes. Ça y est? Allons, on apprend. Je vous dis une chose pour reprendre un peu encore la question de Yosef. Le principe qu'il faut mettre en évidence, c'est celui-là. Un des signes, ça nous avons d'autre part, non seulement dans d'autres textes, mais c'est le fond des choses dans l'histoire que la Bible nous raconte, dans l'histoire de Joseph comme modèle de la mission d'Israël sur les nations. Le modèle, c'est l'histoire de Joseph. Et j'aurais bien aimé qu'on passe toute l'année qu'à faire ça. Bon, on a fait ce qui devait arriver avant, mais enfin, vous aurez quand même quelques cours là-dessus. C'est à partir du moment où la symbiose judéo-goy, c'est-à-dire judéo les nations, à titre de la grande civilisation du temps, là où ça se passe, est réussie, c'est le moment de décrocher. Et si, au moment où c'est réussi, on ne décroche pas, ça commence à pourrir, et chaque fois, ça a eu le même résultat. En Égypte, en Espagne, en Allemagne, partout. Okay. Or, actuellement, le foyer de la civilisation passe en Amérique. Et la symbiose judéo-américaine est réussie. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la littérature américaine, mais aucune idée à quel point elle est enjuivée. Vous comprenez ce que je veux dire? Et regardez ce qui se passe à la télévision. Quand Carter dit la Knesset, c'est avec l'accent hébreu. Quand est-ce qu'un président du monde va parler d'un parlement juif avec l'accent hébreu? Et la kippa, et la Hanouka, ils sont déjà en juillet, comme l'Espagne au temps des Sfaradim. Alors c'est le moment de décrocher. La symbiose a réussi. C'était l'ange en Espagne, au temps du nazisme, la période avant le nazisme, je crois que je vous l'ai dit aussi au début de l'année, il n'y a aucune idée à quel point la symbiose judéo-allemande a réussi. Toutes les instruments de la civilisation du XXe siècle ont été forgés par le judéo-allemand. Vous comprenez, je dis, c'est pas pour rien que tous ces noms-là sont germaniques. Freud, Einstein, tous. Okay. Et il y a une rime en même. Okay. Mais cette synthèse judéo-germanique, disons, a réussi au siècle dernier. C'était le moment de décrocher. Qu'est-ce qu'on a fait? On a installé des synagogues allemandes. Alors les Allemands ont ouvert les forces de l'emploi. Et c'était comme ça en Espagne, et c'était comme ça en Égypte. Vous avez compris le problème? On a joué notre rôle. Et alors, il faut passer à l'étape suivante. Ah non, on aime les cabarets égyptiens. Les rives gauches.
La dernière phrase qui dit, la dernière phrase que je voudrais lire, la première, c'est le cas normal, c'est la fin de la Bible. Je vais vous lire ce verset, c'est effarant. Voilà, c'est le contre livre d'Esther, dans livre d'Esther, le nom de Dieu et le nom d'Israël, blackout. Vous vous rappelez de ce qu'on a appris à propos?
Alors voilà la déclaration sérieuse, le dernier verset de la Bible. Prenez le dernier verset. Verset de la Bible, Divrei Hayamim, chapitre 36, verset 23. Voilà. Ko amar Koresh Melech Paras. Ainsi a dit Cyrus, roi de Perse. Kol mamlechot haaret natani Hashem Elokei Hashamayim. Tous les royautés de la terre m'a donné Hashem Dieu du ciel. Vehu pakad alay. Et il m'a donné, voyez le mot pakad. Et il m'a donné la consigne de lui construire une maison à Jérusalem. Comment Cyrus va construire une maison à Dieu à Jérusalem? C'est le foyer national juif en Palestine. Asher Behuda, qui se trouve en Juda. Mi Bache, qui parmi vous, Nicolas, de tout son peuple, Hachem et Loka Imo, Veya. Hachem, son Dieu avec lui, et qui fasse ça à lui. Veya, c'est le dernier mot de demande. C'est clair. Alors c'est ça, la déclaration Balfour. Nous avons fait un foyer national pour le peuple juif en Palestine. La Shrina est chez elle. Qui d'entre vous le veut, c'est ouvert. Okay. Les juifs ont dit, jamais de la vie, nous sommes français, nous sommes corps, bretons, auvergnats, anglais. Et que les persécutés qui n'ont pas de patrie, toutes les réactions du peuple juif au moment du sionisme, les apatrides. Hein. Alors les goyim ont dit, c'est comme ça, livre blanc, quota, vous montrez 10 par an, pas plus. Vous vous rappelez ce qu'on fait les Britanniques? Vous croyez que si le peuple juif... vous avez appris ce que c'est le livre blanc des Britanniques? Et ça finit par l'exodus. Les rescapés des cas allemands, on les laissait plus rentrer eux-mêmes. Et si le peuple juif avait réagi en disant, eh bien ça y est, on rentre chez nous, quelle force au monde aurait pu empêcher les juifs de venir en Palestine? Comme les juifs ne voulaient pas, alors d'en haut ça s'est décidé. Ah, vous ne voulez pas? Alors les juifs m'ont dit, ils ne veulent pas, on prend acte.
Cyrus est considéré comme un sage
du monde? Cyrus est considéré comme le Mashiach. C'est lui qui a fait le kibbutz galut. Et Isaïe l'appelle Meshiach Hashem. Est-ce que vous remarquez que Chaim Weizmann, qui a obtenu la déclaration Balfour, c'est lui qui a été le premier président de l'État d'Israël, pas par hasard. Dans l'histoire sainte des éternités à venir, on dira, mais qui était le machiav de ce temps-là? Un certain Chaim Weizmann, à qui il était? Ah, la déclaration Balfour. Et alors on avance.
Bon. Oui, apparemment, l'antisémitisme dirait n'existe que chez le monde chrétien.
Non.
Tous les pays. Parce que je crois que vous y avez, on avait référence qu'à.
Non, non. Je vous ai dit d'ailleurs, mais vous avez oublié, vous oubliez ce que vous entendez. Ne croyez pas que la vie des juifs arabes de l'islam, c'était doré. Mais cette espèce de. Comment dire de, et d'autant plus qu'actuellement. Cet antisémitisme anti-sioniste, anti-israélien aveugle, et enfin le terrorisme d'assassinat aveugle, c'est la même chose, c'est Amalek, c'est l'objectif, c'est la destruction. Mais cet antisémitisme de solution finale apparaît quand c'est le temps du retour et qu'Israël ne veut pas retourner. Bon. Voilà par exemple en Égypte. Moïse se dévoile en disant c'est le temps. Les Juifs ne veulent pas. Alors ils s'enfuient. Enfin, les Hébreux ne veulent pas. Ils s'enfuient à Midian 40 ans. Et pendant 40 ans, la persécution s'accroît jusqu'à arriver à la solution finale, les camps de travail des Juifs. Alors là, Moïse revient et leur dit vous n'avez plus aucune. Alors, 4 cinquièmes sont restés dans les pyramides et un cinquième. Vous voyez comment ça se passe? Donc, encore une fois, je reviens sur ce point. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire éclater ces lois de fatalité. Mais quand l'homme abdique sa liberté, les conditionnements naturels, 4 cinquièmes, 1 cinquième. Vous en venez? Tu vois, est-ce que je vous ai parlé de ça, 4 cinquièmes. C'est-à-dire, il y a des lois qui conditionnent le phénomène sociopolitique à tous les niveaux.
Et sous la restauration,
dans un verset à propos de la sortie d'Égypte, Vachamushim, Alou ben Israël, Mérite Mitzrayim, et le Midrash dit un cinquième est sorti. Or, si vous faites la statistique aujourd'hui, il y a un cinquième de Juifs en Israël par rapport aux gens qui sauvent l'Amérique. Si il y a un espoir. À condition de cesser d'abdiquer la volonté personnelle.
Par rapport à la relation mathématique.
Mais non, je répète, il y a un conditionnement statistique. Si je laisse la loi naturelle jouer, elle joue. Si je ne la laisse pas jouer, je la repousse. Je vais vous donner l'exemple que je cite souvent, ça m'a beaucoup frappé dans mes études d'ethnologie. On sait, c'est une loi prouvée expérimentalement. Qu'à condition économique et statut politique donné, et nous connaissons les facteurs, et les facteurs de calcul, de variables mathématiques, dans telle ville, il y aura tant de suicides par an. Mais on ne sait pas qui se suicidera. Vous comprenez ? La loi est formelle. Et elle est formelle. Mais qui va se suicider ? Personne ne peut savoir. Bon. Et si. Parce qu'il y a un facteur de variabilité de la volonté personnelle. Et si tous décident d'être des hommes normaux, il n'y a pas de suicide. Et alors, c'est le cas où la loi se réalise à son niveau extrême, de la pointe du triangle, là où la racine est égale à zéro. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques. De trigonométrie dans la zone. Et alors, là. C'est exactement ce fait. On ne peut pas ne pas observer ça. Le peuple juif n'a pas voulu le sionisme. Il n'y a que les sionistes qui l'ont voulu. Ils étaient 600 000 au moment de la proclamation de l'État. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Okay. Et quand, après la Shoah, on s'est dit, bon, tous les rescapés, c'était rescapés. Jamais de la vie. Que les sionistes, c'était rescapés. Là, c'est encore l'humour du langage. Il s'agit de Sion. Il ne s'agit pas d'un autre pays. Alors, juif, ça veut dire sioniste. Et le scandale des communautés juives, c'est qu'il faut faire partie d'un partitionnisme pour être juif. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est aberrant. Alors il faut adopter telle ou telle idéologie d'un idéologue politique qui n'a rien à voir avec l'histoire juive, mais qui a greffé ça là-dessus, que ce soit pour Horde, que ce soit X ou Y, pour pouvoir être juif. Regardez ce que sont devenus les juifs.